VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 18h à Bujumbura, 16h à Bamako. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Le Mali d'abord, l'AFP rapporte que 3 soldats des forces gouvernementales ont été tués dans une attaque de la rébellion à dominante Touareg. Une info émanant de sources militaires. Des combats ont lieu dans le nord-est du pays, autour de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Enjeu d'affrontement depuis plusieurs jours entre groupes armés pro-gouvernementaux et après la prise le 27 avril par ces groupes pro-gouvernementaux des positions à Ménaka de la coordination des mouvements de la Zawad, ses membres ont répliqué par une série d'attaques avec de nombreux morts de part et d'autre, invoquant la légitime défense contre l'armée malienne. Est-ce que cette coordination appelle ces milices affiliées ? Le Burundi, maintenant, le président Pierre Nkurunziza a procédé ce lundi à un remaniement de son gouvernement et remplacé 3 ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères. Pendant ce temps, des tensions entre militaires ont agité Bujumbura ce lundi après de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du chef de l'État, Lionel Gahima.
Le ministre de la Défense, Poncien Gachibouyenge, est remplacé par Emmanuel Naonvoki, un civil, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la présidence, Gervais Abaero. C'est la première fois depuis une cinquantaine d'années qu'un civil occupe ce poste clé au Burundi. Monsieur Naonvoki est un ancien magistrat qui a dirigé la cour anticorruption et il est apolitique selon la présidence. Au ministère des Relations extérieures, Alain Menyamitwe, jusqu'ici ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, succède à Laurent Kavakure. Et la ministre du Commerce, Virginie Chiza, est remplacée par Irina Inanore. Pendant ce temps, de petits groupes de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans plusieurs quartiers périphériques de Bujumbura, fief de la contestation contre un troisième mandat présidentiel depuis fin avril. À cette occasion, l'on a évité de justesse des affrontements entre deux unités de l'armée, l'une attaquant des manifestants et l'autre voulant s'interposer. Pour la première fois depuis le début du mouvement, c'est l'armée et non la police qui a été déployée pour assurer l'ordre.
Ailleurs dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, les partis politiques et associations se réclamant du capitaine Thomas Sankara, réuni en convention sous la houlette de Mariam Sankara dans le cadre de l'Union pour le Renouveau, ont choisi leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. L'heureux élu, maître Benewende Sankara, mais il n'a pas encore le soutien de toute la nébuleuse sankariste dans le pays. Les participants à la convention de l'Union pour le Renouveau ont donc lancé un vibrant appel aux sankaristes de tous les bords pour qu'ils fassent l'union sacrée autour du candidat soutenu par la veuve du capitaine Thomas Sankara, leur héros. Par ailleurs, un juge d'instruction militaire a recueilli aujourd'hui la déposition de Mariam Sankara, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara, assassiné en 1987. Après environ 28 ans passés à réclamer justice, Madame Sankara et les adhérents du mouvement sankariste se sont dit optimistes. Au Niger, l'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans plusieurs régions du pays a déjà fait plus de 350 morts sur plus de 5200 cas suspects recensés d'après les autorités sanitaires. La capitale Niamey, particulièrement affectée, relève Médecins sans frontières. Quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans le pays et sont en cours de distribution. Au total, plus du double de ce chiffre a été commandé alors que les besoins atteignent 1 800 000 doses selon les experts. Les États-Unis ont exprimé hier leur profonde préoccupation après la condamnation à mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi samedi. Ce dernier, qui a été renversé par l'armée en juillet 2013, s'est vu infliger la peine capitale avec une centaine de co-accusés pour leur rôle dans des évasions de prison et des attaques contre la police durant l'insurrection de 2011 qui a chassé l'ex-président Hosni Moubarak du pouvoir. L'Union européenne a également dit dimanche espérer que la condamnation à mort sera révisé en appel. En Tunisie, le gouvernement se retrouve face à une situation des plus délicates. Libérer 172 Tunisiens détenus en Libye par un groupe de la coalition de milices islamistes Fadj Libya. Leur arrestation vient en représailles à l'arrestation à Tunis de l'un des chefs de l'organisation. Les détails avec Salwa Jaafari.
172 ressortissants et le chiffre pourrait être revu à la hausse selon les autorités tunisiennes. Tunis se dit cependant optimiste quant au dénouement de cet épisode. Le consul tunisien à Tripoli a indiqué hier soir que son bureau avait reçu des plaintes de ressortissants tunisiens l'informant des arrestations et de la détention d'un nombre important de leurs compatriotes par une phalange alliée aux forces de Fajr Libya et aux forces de Misrata qui s'appellent Katibat al-Madfaya. Les victimes seraient retenues à Salah ad-Din, dans la région de Tripoli. Les Tunisiens auraient été pris par la milice en représailles à l'arrestation jeudi d'un de leurs chefs, Walid el-Klibi. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par la lutte entre différents groupes armés, dont les milices djihadistes. Sur le plan politique, deux gouvernements se disputent le contrôle du pays, l'un reconnu par la communauté internationale dans l'est du pays, l'autre à Tripoli, sous contrôle de Fajr Libya.
Tout à fait autre chose maintenant, et si vous le permettez, revenons sur la Journée internationale des familles, célébrée le 15 mai dernier, une date pour rappeler le rôle de la famille au sein d'une nation, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondante au Togo, Kay Lorson.
Le thème 2015 de la Journée mondiale de la famille est « Les hommes en charge ». Égalité des sexes et droits des enfants au sein des familles contemporaines. La famille contemporaine est une famille nucléaire selon ces Togolais, en opposition à celle dite africaine.
La famille en Afrique, c'est le regroupement du père, de la mère, des enfants, des cousins, cousines, des grands-parents, des oncles et tous ceux qui sont proches de la famille, quoi. C'est ça la famille africaine.
Actuellement, la famille d'avant n'est plus celle d'aujourd'hui. Avant, il y avait tout un ensemble. Actuellement, c'est entre hommes et femmes. Et les enfants.
Réduire la famille au père, à la mère et aux enfants empiète sur la solidarité qui est l'un des piliers de l'Afrique, soutient Marc Adedochile, président du Forum des organisations de défense des droits des enfants au Togo, FODET.
Cette réduction de la famille africaine à sa portion la plus congrue a des conséquences désastreuses. Parce que le fait de commencer à ramener la famille au père, à la mère et seulement à ses propres enfants, fait que aujourd'hui, lorsqu'on voit des enfants qui se retrouvent dans la rue, on ne cherche même pas à savoir qui sont les parents géniteurs de ces enfants-là et on fait semblant de regarder ailleurs. Et donc, il n'y a plus cette notion de solidarité, il n'y a plus cette notion de fraternité qui existait jadis. Les gens ne voient pas la portée néfaste de cette notion familiale d'aujourd'hui.
Le thème retenu par les Nations Unies pour la Journée mondiale des familles 2015 vise donc à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des enfants au sein des familles. Un travail qui ne peut se faire sans l'implication des organisations de la société civile. Dans ce sens, Plan Togo va piloter un projet pour la mise en œuvre des droits des enfants au Togo. François Ali, conseiller en droit de l'enfant à Plan Togo.
Le projet dont nous parlons aujourd'hui est un projet qui se focalise essentiellement sur le renforcement de la société civile togolaise acquise aux droits de l'enfant pour le plaidoyer auprès de l'État afin que la voix des enfants soit entendue.
La prévention de la violence familiale doit être de mise pour mieux protéger les enfants qui sont l'avenir du monde, dit-on souvent. Kay Lorson, Lomé, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le cahier international, en Irak, coup dur pour le gouvernement irakien. Les djihadistes du groupe État islamique ont pris dimanche le contrôle de la ville de Ramadi, à une centaine de kilomètres de la capitale Bagdad. Mais le secrétaire d'État américain John Kerry s'est dit aujourd'hui certain de la reprise du chef-lieu de la province d'Anbar par les forces gouvernementales irakiennes. Sherima Dorsil.
Les images de la télévision ont montré des soldats irakiens avec leurs armes et véhicules de combat fuyant Ramadi à vive allure à l'approche des combattants du groupe État islamique hier dimanche. Ainsi, les djihadistes ont obtenu leur plus grande victoire cette année après plusieurs jours d'affrontements intenses et un lourd bilan. Environ 500 personnes, civiles ou membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les trois derniers jours. Plus tôt dans la journée, le premier ministre irakien Haider al-Abadi implorait ses troupes de ne pas abandonner leur poste et essayait de rallier les milices chiites pour une reconquête de Ramadi. Mais la déroute des forces gouvernementales semblait complète en début de soirée quand le principal quartier général de l'armée dans la capitale d'Al-Anbar est tombé aux mains des islamistes. La prise de Ramadi donne à l'État islamique une position avancée à seulement environ 125 km de la capitale Bagdad.
Voilà pour ce journal. Je vous donne rendez-vous dans exactement 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.